Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
En République démocratique du Congo, on estime autour de 2% le nombre de personnes qui souffrent de l'anémie espèce. D'après les experts, cette maladie ruine beaucoup de familles car elle nécessite régulièrement des soins appropriés. Maladie génétique héréditaire, la drépanocytose peut être évitée par les parents, par ceux qui veulent s'engager dans la voie du mariage. Docteur René Yulou, encore une fois, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Alors, pouvez-vous nous parler de cette maladie? Dit l'anémie SS.
De toute façon, je ne peux parler pendant plus d'une heure. Cette maladie est énorme. Je pense qu'il faut me poser des questions précises sur cette
maladie. Présentez d'abord la maladie. C'est quoi l'anémie SS?
L'anémie SS, en réalité, c'est une maladie héréditaire. Héréditaire, ça veut dire qu'elle est transmise des parents vers les enfants. N'est-ce pas? Elle se caractérise par une anémie chronique. Une anémie chronique dont les enfants sont anémiques. C'est ainsi qu'on appelle ça anémie. Mais également par des crises douloureuses dites vaso-occlusives. Brusquement, ces enfants, pour l'une ou l'autre raison, un coup de croix, un stress, une déshydratation, ou parfois sans motif, ils commencent à présenter des douleurs, et ces douleurs peuvent se localiser n'importe où.
D'abord, l'élément important, c'est la perte du sang, la diminution du sang.
Disons que c'est pas du sang diminué, mais ils sont anémiques. Ils sont nés anémiques. Donc, ils ont toujours un taux d'hémoglobine qui est bas. En tout cas, en dessous de 10, et généralement, c'est entre ces 8 grammes d'hémoglobine, alors que le taux normal est de 14 à 16 grammes par décilitre. Donc, caractérisé par cette anémie chronique, une anémie.
C'est des enfants qu'il faut chaque fois amener à l'hôpital pour des perfusions.
Donc pour des transfusions.
Transfusions.
De temps en temps. Enfin, on va en arriver.
Okay.
Et donc, cette anémie chronique, et puis des crises douloureuses. Et en termes techniques, nous parlons des crises donc vaso-occlusives. Des crises vraiment douloureuses. Alors ça, c'est de la douleur. Les enfants, ils crient, ils ont mal.
Douleur à quel niveau?
À tous les niveaux. Au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des mains.
Donc des douleurs généralisées.
Parfois. Parfois même des douleurs généralisées. Mais également par des infections à répétition. Donc ce sont des enfants qu'il faut vraiment surveiller parce que, pour l'une ou l'autre raison, ils s'infectent. Et ils s'infectent surtout aux germes qui sont les plus redoutables, parce que les germes redoutables sont des germes qui sont encapsulés et donc sont difficiles à phagocyter. Difficiles à tuer par les agents naturels que nous avons.
Quels sont ces germes-là?
Notamment le pneumocoque et le Haemophilus influenzae. Mais ils peuvent s'infecter à tous les autres germes, notamment les salmonelles, les shigelles, les staphylocoques, etc. Mais les germes les plus redoutables sont ces germes encapsulés qui sont très difficiles à phagocyter. Donc voilà un tout petit peu la maladie. Et ben, puisqu'ils ont une anémie chronique, cette anémie pour eux est supportable quand ils ont un taux de 7 ou 8 grammes, mais pour des raisons, pour l'une ou l'autre raison, cette anémie peut s'aggraver. Alors nous parlons ce moment-là d'une crise d'hyperhémolyse. La crise d'hyperhémolyse, c'est un enfant qui a 7 grammes d'hémoglobine, brusquement, il tombe à 3 grammes. Et à ce moment-là, il faut transfuser.
Et certains disent que les enfants anémiques, disons, les sujets ne font pas, l'espérance de vie ne va pas au-delà des 30 ans ou quelque chose dans ce sens-là.
C'est vrai ou pas hein? Autrefois, lorsque
on pas longtemps, ça me dit.
Oui, en réalité, oui. Hein. Mais seulement, autrefois, lorsque la maladie était mal connue, ou disons, pas très, parce qu'on n'avait pas encore percé, disons, tous les mystères, ces enfants, dans notre milieu, ne dépassaient guère l'âge de 5 ans.
À l'âge de 5 ans,
oui, parce que le professeur Eckels, qui est l'un de nos maîtres, et qui est le premier pédiatre à l'âge de 5, qui a enseigné tous nos aînés à l'université Lovanium, ce monsieur n'avait jamais vu un drépanocytaire qui avait un âge supérieur à 5 ans. Parce que pour lui, ils mouraient tous. Mais quand il est venu au 50e anniversaire de l'université, en 2004, parce que lui est parti, je ne l'ai pas connu ici, hein. Moi je l'ai connu en Europe quand je suis allé, ben, quand il est venu, il a trouvé un très bon visiteur que nous avons hospitalisé qui avait 23 ans. Alors cela l'a beaucoup étonné, et naturellement, nous lui avons dit, cher maître, cher professeur Eckels, les choses ont évolué, nous comprenons un peu mieux la maladie, sa physiopathologie, etc., et donc je crois que nous pouvons garder ces enfants un peu plus tard. Et dans les pays organisés tels que les États-Unis, l'espérance de vie moyenne d'un enfant visiteur est d'environ 50 ans.
50 ans.
Ah oui.
Mais sinon, ce n'est pas encore possible.
Ce n'est pas encore possible.
On n'a pas encore développé. Les recherches ne sont pas tellement poussées.
Non, ce n'est pas un problème de recherche, c'est un problème de prise en charge. Vous savez que c'est une maladie chronique, donc ce sont des enfants qui sont malades à tout moment, mais si les parents doivent payer, alors à ce moment-là, ils vont mourir. Normalement, il fallait que.
La prise en charge coûte très cher.
Naturellement, puisqu'ils sont malades tout le temps. Comme je vous ai dit, ils sont anémiques à tout moment, et brusquement, cette anémie peut s'aggraver. Est tombé à 2-3 grammes, et en ce moment-là, on est transfusé. Parfois, ils font ce qu'on appelle des crises de séquestration splénique, c'est-à-dire brusquement tout le sang de l'organisme va s'engouffrer dans la rate, et donc tout le sang, oui, tout le sang, et ça peut donner ce qu'on appelle un colactus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de globules rouges dans les vaisseaux, tout le sang va s'engouffrer dans la rate.
Très compliqué.
Ah oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, il faut transfuser l'enfant. Il faut le transfuser. Donc, et puis, il y a un virus qui aime bien les enfants anémiques. C'est le parvovirus B19. Bon, enfin, ça, c'est un peu scientifique. On va non pas aller dans les détails. Mais brusquement, donc, ce virus peut attaquer la moelle de ces enfants et donner ce qu'on appelle une crise d'aplasie médulaire. C'est-à-dire, brusquement, cet enfant ne produit plus du sang. Vous savez que le sang de l'organisme, pour nous tous, ça vient de la moelle. Dans la moelle des os. C'est donc la moelle est touchée, et donc il y a le sang des plus produits.
Des productions.
Oui. Heureusement que c'est une crise, disons, passagère, parce qu'à un certain moment, ces germes s'épuisent, et l'enfant, disons, commence à régénérer sa moelle, et donc la situation s'améliore.
Mais entre-temps,
entre-temps, il faut transfuser, c'est bon. Hein.
Docteur René, vous avez dit tout à l'heure que c'est une maladie héréditaire. Quelles sont les vraies causes?
Bon, en réalité, c'est un gène malade. Nous sommes nés comme ça, hein, puisque c'est une maladie héréditaire, donc le gène nous est transmis par nos parents, et nous n'en pouvons rien. Ceux qui ont le gène, ils n'en peuvent rien.
C'est quel gène?
Vous savez que chaque élément de l'organisme humain est produit à partir d'un code génétique. Et donc, si vous voulez bien, parce que je ne veux pas entrer dans les détails scientifiques, excusez-moi parce que le niveau d'enseigner parfois me pousse à aller un peu trop loin, mais enfin, le globule rouge, c'est ça, qui contient l'hémoglobine. C'est cette hémoglobine-là qui a le pouvoir de transporter l'oxygène, pour que les cellules puissent se nourrir. Et alors, cette hémoglobine-là est composée de deux parties, l'hème et la globine. Et cette globine, c'est une partie, disons, des protéines. Et ces protéines-là, pour être produites, elles doivent être sous le code génétique. Oui. Et bien donc, au niveau du code génétique, il y a une mutation. Et c'est cette mutation qui fait qu'on produit une hémoglobine anormale. Cette hémoglobine anormale a malheureusement la caractéristique de pouvoir durcir, de pouvoir se gélifier, de pouvoir se cristalliser, si vous voulez, quand la pression d'oxygène baisse.
Et c'est une hémoglobine, le code est représenté par des lettres, on parle souvent de AA, AS,
oui. Et donc, on hérite du gène S de ses parents, là, nous n'en trouvons rien. Et donc, quand vous êtes AS, la partenaire est AS également, en ce moment-là, vous avez des chances d'avoir un enfant SS. Donc, un couple qui est AS, c'est un couple qui a des risques de produire un enfant SS. Donc, à chaque fécondation, si vous voulez, à chaque fois, parce que nous ne pouvons pas contrôler la fécondation, c'est Dieu qui contrôle ça, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas savoir quelle est la cellule qui est larguée, que ce soit l'ovule, que ce soit le spermatozoïde. Quand un spermatozoïde S rencontre un ovule S, Oui. À ce moment-là, en soi, il y a SS. Mais maintenant, nous ne pouvons pas contrôler ça. Ça veut dire que lors d'une séquenciation, pour un couple AS, eh ben, on a 25% de chance.
25%.
Nous avons 5% de probabilité, si vous voulez, d'avoir un enfant normal AA. On a 50% de probabilité d'avoir un enfant AS porteur de l'anomalie, mais pas malade. Et on a 25% de probabilité d'avoir un enfant malade SS.
Comment prévenir l'anémie SS? Plusieurs auditeurs vous écoutent à travers le pays et ils appellent pour poser des questions. Nous avons en ligne M. Olivier. Il est à Kananga et d'autres vont encore appeler. N'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, paroles aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment prévenir l'anémie SS? Olivier, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Quelle est votre question?
Oui, selon certaines personnes, hein, ils disent que l'anémie SS peut aussi être considérée comme une maladie inflammatoire. Je voulais demander si c'est vraiment idéal. Et la deuxième question est celle de savoir pourquoi il y a un taux élevé chez, d'anémie SS chez les Bantous. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour réduire ce taux-là?
Merci Olivier. Mavé, vous êtes ici à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour notre invité, ainsi qu'à tous les autres aussi en ce moment.
On vous écoute.
Merci. J'ai trois questions à poser à notre invité.
Oui.
Et la première, c'est de savoir, est-ce que l'anémie SS est une maladie sexuellement transmissible? Et la deuxième question, et comment peut-on identifier une personne atteinte d'une anémie SS physiquement? Est-ce que cette maladie peut-elle être guérissable ou traitable? Voilà les trois questions que je voudrais poser à notre invité. Je vous remercie tous les autres.
Merci, Mabé de Kananga. Docteur René, la première question de l'Olivier de Kananga, il veut savoir si c'est une maladie inflammatoire.
Ah ben forcément, cher Olivier, c'est Olivier, je pense que c'est Olivier, bien sûr.
Oui,
oui, parce que c'est une maladie, quand on regarde tout ce qui se passe autour de cette maladie, notamment sa physiopathologie, effectivement, ce sont des enfants qui ont donc d'abord un taux de globules blancs très élevé, et ils ont des, si vous voulez, des cytokines inflammatoires. J'espère que tu es, j'imagine que tu es étudiant, donc.
Mais non, nous on ne comprend pas.
Ils ont des indices inflammatoires qui sont élevés.
Ok.
Et donc, pour ce motif, nous pouvons dire que c'est une maladie inflammatoire également.
Alors, ta seconde question, c'est de savoir pourquoi le taux élevé d'anémie SS chez les Bantous.
Ben, la maladie sévit surtout au sud du Sahara et surtout au niveau de la ceinture malarienne. Parce que les chercheurs pensent que depuis des dizaines d'années, les hommes ont subi, disons, le sang des gens qui vivent en milieu infesté par le paludisme. Ce sang a subi une mutation. Une mutation parce qu'on a constaté que les porteurs de l'anomalie S résistent à la malaria. C'est ce d'ailleurs qui fait que ces enfants qui sont AS ne meurent pas de malaria pernicieuse. La malaria pernicieuse résiste, c'est-à-dire l'europalisme, les formes graves de la maladie, etc.
Oui.
Et donc, ceux qui sont porteurs de la tare, de l'anomalie, excusez-moi, parce que la tare, c'est toujours un peu péjoratif. Ceux qui sont porteurs de l'anomalie,
oui,
eh bien, ceux-là, qui résistent à la malaria. Alors, on imagine que il y a eu une mutation pour, justement, lutter contre la malaria. Et c'est ce qui fait que la maladie va être pérennisée. Parce que, justement, ceux qui sont porteurs de la tare, ils ne meurent pas pendant la jeunesse. Et ceux qui tuaient les gens dans le temps, maintenant, c'est le paludisme. Donc, c'est une maladie qui ne se trouve pas seulement chez les Bantous, mais essentiellement parce que nous nous trouvons dans la ceinture malarienne. On retrouve donc cette maladie.
Parce qu'on se retrouve dans une zone endémique.
Endémique, oui.
Voilà, on est voilà. Exposé.
Exactement.
Et qu'ils soient en dehors de la zone, on n'est pas exposé à développer l'anémie, en fait.
Oui, mais bon, naturellement, quand, aux États-Unis, puisqu'ils ont subi la migration de la traite négrière,
oui.
Et en ce moment-là, aux États-Unis, on va retrouver l'anémie. Les gens qui sont venus d'Afrique.
Il y a plusieurs cas où c'est minime.
Ah, si, il y a environ 8% des Noirs dans l'Amérique. 8 ou 12%, ils ont la maladie donc dans le pays.
Mm. Voilà, et Mavé de Kananga, vous voulez savoir si l'anémie SS est transmise par la voie sexuelle.
Oh non, non, c'est pas une maladie sexuelle transmise. Non, c'est pas le cas. Hein. Ici, c'est une maladie héréditaire, donc vraiment, ça se fait inscrit dans le génome, dans les chromosomes, et donc ce n'est pas une maladie sexuelle transmise.
Voilà, alors, sa deuxième question, comment identifier un sujet SS?
Bon, d'abord, il faut dire, il y a des nuances à faire, hein, parce que tous les anémiques, tous les SS ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont effectivement des SS, mais qui se comportent très bien. Et ça pour des raisons que nous pouvons évoquer un peu plus tard. Mais un vrai anémique, on le reconnaît, un enfant, du moins, parce que je suis pédiatre, je préfère parler des enfants.
Mm-hmm.
Un enfant anémique, on le voit par sa face d'abord. Ils ont ils sont pâles, ils sont ictériques,
c'est-à-dire
les yeux sont jaunes,
okay.
Là, ou en tout cas subictériques, c'est-à-dire un tout petit peu jaune. Ils ont le front proéminent, pourquoi simplement parce que leur moelle à des os est toujours, disons, en ébullition, ils sont seuls à tout moment, parce que les globules rouges sont toujours détruits, et donc ça génère toujours des globules rouges, et donc ils ont des fronts proéminents. Les ascarbes dentaires sont ressorties.
Mmh.
Ils ont parfois l'abdomen volumineux parce qu'ils ont des organes internes qui sont augmentés de volume, notamment le foie et la rate. Ils ne croissent pas normalement à cause de l'anémie chronique.
Ce sont des petits pains.
Oui, ce sont des enfants qui ont, si vous voulez, une hypoxie relative chronique. Hypoxie, ça veut dire manquer d'oxygène, hein, parce que l'oxygène est conduit par justement par cette hémoglobine.
Mmh.
Et donc, ce sont des enfants qui ont un retard staturopondéral. Et même chez les jeunes filles, ils ont ce qu'on appelle la ménarche qui est retardée, normalement, pour une fille normale.
Est-ce qu'il y a des choses que les anémiques ne doivent pas faire?
Oui.
Lesquelles, par
exemple? Notamment, faire des exercices violents.
Exercices physiques,
les exercices physiques,
jouer au football, avoir la
larme, s'exposer au froid, aller en haute altitude. Peut-être qu'ils sont malades, il faut les soigner. Rapidement, parce que quand ils sont déshydratés, ils sont ce qu'on appelle une acidose, et à ce moment-là, ils vont faire soit la crise, soit le
SAT. Est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants?
Justement, oui, certains, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que tous les tripanocyteurs ne sont pas les mêmes, pour des raisons que nous pouvons évoquer plus tard, et donc certains sont fertiles. Nous avons vu des femmes tripanocytaires qui ont des enfants, comme nous avons eu des hommes tripanocytaires qui ont des enfants.
Oui. Des enfants. Ouais. Voilà, il y a trois auditeurs en ligne. Eric nous appelle des Kamina, Daniel est à Goma, et l'ingénieur Mangoyo à Kinshasa. Vous voulez également participer et composer le 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Eric Descamina, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour.
On vous écoute.
La question est la suivante.
Oui.
Je voulais demander à l'invité, j'ai un jeune frère qui est anémique SS.
Oui. S'il vous plaît, Eric, veuillez fermer, éteindre votre radio. Vous avez souvent partie de votre téléphone. Non? Ou veuillez vous éloigner de votre radio, s'il vous plaît, ou fermez-la clairement. Vous allez suivre à partir de votre téléphone. Non?
Ok.
Ok, allez-y.
Bon, il a presque 27 ans.
Oui.
Auparavant, lorsqu'il n'avait pas encore l'âge de 18 ans, il faisait des crises. Mais souvent, il avait des douleurs et consorts, mais l'anémie, il les faisait rarement.
Mmh.
Mais quand il a eu presque 18 ans, il fait la crise là. rarement. Et maintenant qu'il a 27 ans, c'est presque rarement. Mais je voulais demander à l'invité qu'est-ce que nous devons faire de plus pour l'aider à vivre normalement. Parce que maintenant, il vit presque comme un enfant normal.
Bien, merci. C'est Daniel de Goma au nord, si vous bonjour.
Oui. Oui.
Daniel, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, Daniel, s'il vous plaît. Oui, vous êtes à Goma. Veuillez éteindre votre radio, Daniel. Vous allez sur la partie de votre téléphone.
Je voudrais demander une question au docteur.
Allez-y. Oui. Mais veuillez fermer votre radio, Daniel.
Ouais, je voulais demander s'il n'existe pas des incompatibilités. Oui, je vais le temps. Merci. Je voulais demander au docteur s'il n'existe pas des incompatibilités sanguines qui sont à l'origine des accidents vasculaires qui, par la suite, peut entraîner une anémie SS. C'est la première question.
Oui, la deuxième.
La seconde, je voulais demander au docteur le type des conseils qu'il peut, donner à la communauté congolaise jeune, non encore mariée, pour prévenir l'anémie SS.
Merci Daniel. L'ingénieur Mangouille, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Jourdi.
On vous écoute.
D'abord, je tiens à saluer notre invité, le docteur Ngil René, que je connais très bien. Je le salue fraternellement, M. le docteur c'est Arnold, sur l'avenue Bandi Aboma.
Ah bon, oui, un bon salut. Voilà, le docteur René est populaire, hein.
Oui, je suis très content pour ça. C'est pour moi, René. Voilà, et j'ai deux préoccupations, docteur.
Oui.
Est-ce que, évidemment, la première préoccupation est presque vidée par le tribunal qui vient de me précéder, mais je voudrais quand même répéter ça. Et quel conseil, docteur, vous pouvez prodiguer aux jeunes gens qui sont encore mariés, qui vivent les fiançailles, pour prévenir justement cette anémie SS. Ça, c'est une préoccupation. Parce que vous avez dit que c'est quand même une maladie très difficile à gérer, et surtout qu'en ce moment ici, où il n'y a aucune structure étatique qui peuvent, en fait, comme c'est le cas avec la tuberculose et le VIH-SIDA, quel conseil vous pouvez prodiguer à ces jeunes gens qui sont encore mariés? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, docteur, un enfant qui est né SS et malheureusement qui est aussi contaminé par le VIH-SIDA, quelles peuvent être les conséquences sur le plan clinique pour ce sujet? Merci encore, René.
Bien, c'est le docteur René, vous avez la parole.
Bien, est-ce que je peux avoir la première question? Excusez-moi.
Oui. D'abord, on va terminer la question de Mazé. Il veut savoir si la maladie, l'anémie, est-ce que c'est une maladie chronique ou elle peut être guérie?
Non, c'est une maladie héréditaire. Donc, elle est inscrite dans les chromosomes. Mmh. C'est une maladie, donc, à vie.
À vie. Oui. Éric Descamina, il part de son frère qui a 27 ans. Depuis lors, il ne fait plus des crises. Alors, que faire pour l'aider à vivre normalement?
Écoute, mon cher Eric, c'est une chance parce que je crois que votre frère fait partie de ces drépanocytaires qui ne font pas suffisamment de crise. Nous savons qu'il y a des facteurs modulateurs de la maladie, mais nous n'allons pas commencer à en parler ici parce que ça c'est la science tout à fait. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a des drépanocytaires qui vivent quasi normalement. Et vous savez que nous, ici, dans le pays, dans les pays bantous, c'est ici où nous trouvons les manifestations les plus sévères. Il y a des drépanocytaires qui se trouvent en Inde, en Arabie Saoudite et consorts. Eh bien, ces drépanocytaires, ils arrivent facilement 60-70 ans. Ils vivent normalement pour des raisons que nous pouvons évoquer un peu plus tard si nous avons le temps. Et donc, votre frère est probablement une des personnes protégées par certains facteurs qui modulent la maladie. Et alors, en ce moment-là, il peut atteindre 70 ans et même un peu plus tard. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il doit respecter les règles d'hygiène, puisque ce sont des gens qui font facilement les infections. Deuxièmement, il doit mener une vie saine, ne pas aller boire, faire de n'importe quoi. C'est un monsieur donc qui doit prendre son acide folique tous les jours et sincèrement se réserver des activités qui soient des activités vraiment assez
qui exigent beaucoup d'énergie.
Oui. Et je crois qu'en ce moment-là, s'il a une nourriture qu'on lui dit à l'intérieur, je crois qu'il peut manger des choses convenables.
Un drépanocytaire peut avoir des relations intimes.
Ah oui, absolument. Ah oui, je pense bien. C'est un homme comme tous les hommes.
Sans risque, c'est des relations sans risque.
En principe, il y a, on suppose qu'il y a aussi, certainement, il y a un effort d'énergie qu'il faut.
Oui, bien entendu. vous savez, ces histoires-là, même un homme normal, il y a toujours des risques. Et donc, pour un parasitaire, il y a deux fois plus de risques. Oui.
Daniel Degoma dit les certaines incompatibilités sanguines ces incompatibilités peuvent entraîner l'anémie en cas d'accident.
Non, je pense qu'ici il y a une petite confusion, mon petit. Je crois que les incompatibilités sanguines sont ce sont des entités nosologiques qui sont tout à fait différentes de l'anémie SS. L'anémie SS est une maladie héréditaire, les incompatibilités sont des maladies acquises. Oui. Donc je crois qu'il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de relation. Des incompatibilités, notamment surtout maternelles, quand on parle de l'incompatibilité rhésus, ça c'est une incompatibilité, c'est une maladie acquise. Ce sont les anticorps maternels qui vont détruire les globules rouges de l'enfant.
Mmh.
Oui, ou alors les anémies hémolytiques auto-immunes. Donc l'organisme produit des anticorps contre ses propres composantes. Et donc, ça sont des maladies acquises. Tandis que l'anémie SS, vous naissez avec, vous héritez du gène S de vos parents. Donc, un S de la maman, un S du papa. Voilà. Donc, il n'y a pas de communication.
Voilà, Daniel et l'ingénieur Mangoyo sont revenus sur la même question. Les conseils à prodiguer aux jeunes fiancés, ceux-là qui veulent s'engager sur la voie du mariage.
Écoute, l'ingénieur, monsieur l'ingénieur, Arnaud, je te salue, mon petit, je connais très bien.
Oui,
et donc. C'est cela qui a toujours été ma préoccupation. Et chaque fois que j'enseigne ça, je dis aux enfants, ne vous mariez pas entre sujet AS. Faites l'électrophorèse lorsque vous êtes en âge de fiançailles. Faites l'électrophorèse et l'hémoglobine. C'est un examen simple. Nous avons fait une petite enquête au niveau de l'université. 11% d'étudiants, n'est-ce pas, de l'université de Kinshasa, connaissent leur électrophorèse et l'hémoglobine. C'est extrêmement grave.
11%.
Et tout le monde doit avoir son électrophorèse hémoglobine. Et quand vous avez l'électrophorèse AS, votre fiancé, quel que soit le degré d'amour, et AS, écoute, ayez le courage de
parce que l'amour rend aveugle.
Ouais, exactement. Mais alors, en soi,
on est tellement amoureux.
Eh bien, écoute, justement, c'est frère, l'amour étant aveugle, lorsque vous vous mariez, alors, quand vous avez un enfant SS, l'amour a des yeux en ce moment-là. Parce que, je dis toujours aux jeunes filles, faites attention parce que c'est la maladie, c'est pour vous. Nous avons vu les mamans, les mères, qui vont à l'hôpital tous les jours. En tout cas,
tous les jours,
ou chaque semaine, en tout cas. Mais on n'a jamais vu les papas ou les pères dans ces consultations. Et donc,
c'est la mère qui
est en couple le plus.
Oui.
En ce moment-là, l'amour a des yeux. Elle était aveugle, après maintenant elle a de la vie. Alors en ce moment-là, évitez que ce soit ainsi.
Hein. Oui.
Donc vraiment, je vous en prie.
Ceux qui veulent se marier doivent absolument aller faire. Peut-être qu'il y a un problème de vulgarisation.
Mais nous avons
tout. Il y a la sensibilisation.
Maintenant, nous sommes sur Radio Capi. Je crois que Radio Capi est suivi dans le Congo entier. Évitez de vous marier entre sujets. Quand vous êtes marié, vous mettez simplement vos responsabilités.
C'est la seule façon de prévenir.
Oui, c'est la seule façon pour le moment de prévenir.
Saïd, il nous appelle de Rochourou, en Orchibou. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Saïd?
Ma préoccupation, c'est ceci. Quelqu'un qui a l'anémie falciforme de SS, est-ce que pour les filles, ça ne peut pas causer des dégâts tant et là-dedans, l'âge des règles au lieu des menstruations?
Docteur René.
Ah ben, certainement, parce que justement, ils ont d'ailleurs des perturbations des règles, parce que vous savez que cette anémie est ressentie par les hormones, par les organes qui produisent les hormones. Et donc, ils ont des perturbations des règles, ces enfants, et il faudra que. Quand elles ont ces perturbations, qu'elles aillent voir un gynécologue pour essayer de régulariser la situation.
Mmh.
Mais en tout cas, j'ai vu quelques filles qui se plaignaient de manque de règles pendant 2-3 mois, des règles abondantes, des règles, etc. En tout cas, elles ont des troubles de règles. Mais je ne suis pas gynécologue, je suis pédiatre, mon gars, et donc je préfère ne pas trop
vous étendre là-dessus. Madame Godet nous appelle d'Issiro, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Dommage, elle n'est plus en ligne.
Oh, yeah.
Et puis, une question, la deuxième question de l'ingénieur Mangoyo. Un enfant, peut-être un qui est contaminé du VIH-Sida. Ça se complique encore.
C'est un véritable drame. C'est un véritable drame. Effectivement, parce que ces enfants sont des enfants transfusés.
Mmh.
Heureusement, pour le moment, ici, à Kinshasa, du moins, nous avons le Centre national de transfusion où nous pouvons faire tous les tests avant la transfusion. Mais un enfant prépanocytaire qui est atteint de VIH-Sida, c'est tout simplement dramatique.
C'est dramatique.
Tout simplement.
Voilà. Donc, la seule façon de prévenir la drépanocytose, docteur René, c'est la prévention, aller faire des examens.
Oui.
Comment on appelle ça, ces examens résiduels?
L'électrophorèse.
L'électrophorèse.
De l'hémoglobine.
De l'hémoglobine.
Ah ouais.
Alors, où est-ce qu'il faut aller, mais ça?
Oh, ça se trouve un peu partout. À l'INRB, on peut faire. À l'Homo Médical, à l'Unité, au centre du professeur Moulembe, à. Centre biomédical à Matongé.
Dans toutes les provinces de la République, il y a
des
centres où on
peut... Je ne saurais pas vous dire parce que justement, nous n'avons pas les moyens de circuler dans ces centres. Mm. Mais je sais qu'à Bouma, chez moi, il y a des gens qui peuvent faire des enfants de l'hémoglobine.
Bien, c'est Dr René Nguilou, spécialiste en hématologie et oncologie chez les enfants. Je vous remercie.
Merci, monsieur Rémi. C'est un véritable plaisir de venir parler à Radio Okapi et j'espère que j'aurai l'opportunité de reparler d'autres fois.
À la prochaine.